matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Et voici un premier journal. Bonjour Romain Oquet.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
6h sur Europe 1.
On est censé être dans un pays où la liberté d'expression prône et on est censé pouvoir dire quand on a envie que les choses changent.
Malgré l'interdiction des autorités, environ 3000 manifestants dans les rues de Paris hier. Ils étaient 22 000 en France rassemblés pour soutenir le peuple palestinien.
Et justement, face à la sécurité, à situation explosive au Proche-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi. Alors les États-Unis vont-ils encore s'opposer à une déclaration commune? Nous poserons la question à notre correspondant.
En France, un nouveau cap franchi dans la lutte contre l'épidémie. 20 millions de personnes ont reçu une première dose, objectif tenu pour le gouvernement.
Et puis du foot, avec la 37e journée de Ligue 1, le PSG affronte Reims ce soir pour remporter le titre. C'est simple, les Parisiens ont besoin d'un miracle, nous dira Julien Froment.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À New York, à Rome, à Berlin, à Londres, des milliers de personnes se sont rassemblées hier en soutien au peuple palestinien.
Ils étaient 22 000 en France, selon le ministère de l'Intérieur, notamment à Paris, malgré l'interdiction de la préfecture. Les autorités craignaient d'importants débordements. Finalement, les tensions n'ont été que légères.
Damien Mestre, la fin de journée que vous avez suivie a tout de même été marquée par un face-à-face tendu entre policiers et manifestants.
Oui, en tout, il y a eu une quarantaine d'interpellations. On a vu des scènes d'affrontements, des jets de projectiles, parfois en plein milieu des boulevards et de la circulation. En fin de journée, un gendarme s'est écroulé au sol, blessé à la tête. Il a été transporté à l'hôpital. Pourtant, le début du rassemblement, lui, était pacifique, assez familial même. D'ailleurs, beaucoup étaient là pour soutenir non seulement la cause palestinienne, mais aussi pour dénoncer l'interdiction de manifester, qui est vécue, par exemple, avec colère et incompréhension par Sonia.
On est censé être dans un pays où la liberté d'expression prône et on est censé pouvoir dire quand on a envie que les choses changent des deux côtés. Il ne faut pas qu'il y ait de mort des deux côtés, ni du côté des Israéliens, ni du côté des Palestiniens.
Très rapidement, ces tout premiers manifestants ont été dispersés, assez sèchement parfois, avec l'usage de canons à eau notamment. Une dispersion manu militari justifiée donc par le fait que tout rassemblement était interdit hier à Paris.
Le récit de Damien Mestre pour Europe 1.
Au Proche-Orient, aucun signe d'accalmie entre Israël et le Hamas.
155 personnes sont mortes depuis le début de la semaine. Un immeuble qui abritait les locaux de plusieurs médias a été pulvérisé par l'armée israélienne hier. Une spirale de violence qui semble inarrêtable, pas même par la communauté internationale. Une nouvelle réunion du Conseil de défense de l'ONU est prévue cet après-midi.
Mais pour le moment, les Nations Unies ne sont pas parvenues à une déclaration commune. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant. Le blocage vient de Washington.
Oui, les États-Unis ont fait valoir leur droit de veto lors des deux premières réunions qui se sont tenues lundi et mercredi. Il n'y a donc pas eu d'appel commun à l'arrêt des hostilités. Washington, sous pression internationale, a finalement accepté d'avancer cette nouvelle réunion qui devait au départ se tenir mardi. D'après les mots du secrétaire d'État américain, les États-Unis souhaitent donner du temps à la diplomatie après l'envoi de leur émissaire au Proche-Orient. En tout cas, cette crise s'est invitée dans l'agenda de Joe Biden pour la première fois depuis son investiture. Il s'est entretenu hier par téléphone avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il a réitéré son engagement en faveur d'une solution à deux États pour régler le conflit régional et a affirmé que le Hamas devait cesser ses tirs de roquettes. Joe Biden, qui a également parlé à nouveau avec Benjamin Netanyahou, il a fait part de sa grande inquiétude pour la sécurité des journalistes, tout en soutenant le droit d'Israël à se défendre contre les attaques. Une position très critiquée à gauche du Parti démocrate, le sénateur Bernie Sanders, rival de Joe Biden l'an dernier, a signé ce week-end une tribune dans le New York Times appelant les États-Unis à cesser d'excuser le gouvernement Netanyahou.
L'éclairage d'Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Ouais, alors pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, c'est pas clair. Hein, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, comment ça se passe? Quels sont les rouages? Comment font les diplomates pour négocier? Est-ce qu'il y a des actes derrière? Tout cela, eh bien, c'est Maurice Gourde-Montagne qui est ambassadeur, ancien Sherpa de Jacques Chirac, qui nous expliquera à 7h40, il sera en direct.
Sur le front de l'épidémie, les courbes se croisent.
Celle du nombre de patients en réanimation diminue avec 4200 malades.
Et celle du nombre de vaccinés, elle grimpe, puisqu'on a atteint hier un cap symbolique. 20 millions de Français ont déjà reçu au moins une dose. Anne Le Gall, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Le gouvernement a donc tenu ses objectifs.
Oui, 380 000 premières doses et 100 000 rappels ont été injectés sur la journée d'hier. Un bon score pour un samedi avec 850 centres de vaccination qui étaient restés ouverts. Et désormais, 38% des adultes français ont donc reçu au moins une première injection. Dans les trois quarts des cas, ils ont été vaccinés avec le sérum de Pfizer qui continuera à représenter l'essentiel de nos livraisons dans les semaines qui viennent car nous en attendons 20 millions de doses rien que sur le mois de juin. Depuis la semaine dernière, la demande des rendez-vous de vaccination vaccination s'est accélérée. Mais attention aux plus vulnérables, a rappelé hier Jean Castex, car 22% des plus de 75 ans n'ont pas encore reçu leur première injection. Il va falloir donc aller les chercher. Prochain objectif, réussir à vacciner 10 millions de Français supplémentaires dans le mois qui vient, tout en poursuivant l'injection des rappels. L'arrivée dans une semaine du vaccin Moderna dans les pharmacies et chez les généralistes devrait permettre de fluidifier encore la prise de rendez-vous.
Les explications d'Anne Le Gall.
6h05 et ce petit décompte, tic-tac, tic-tac, dans 3 jours, la réouverture des terrasses de cafés et restaurants.
Vous l'attendez, Pierre, j'en suis sûre. En tout cas, 3 jours, c'est peu pour remplir les chambres froides, réparer ou changer le matériel. Tout ça, évidemment, ça s'anticipe. La preuve, chez les grossistes qui voient revenir leurs clients restaurateurs. Le reportage de Benjamin Péter.
Des charlottes, on a chalumeau, on a des bonbons pour les enfants.
La liste de courses de Pascal est longue. Son restaurant au cœur du quartier des Minimes va pouvoir accueillir une 50aine de clients dès mercredi. Il faut que tout soit prêt.
Pour penser à tout, ouais.
Gilles, lui, n'aura que 16 couverts. Il vient renouveler son matériel.
J'ai acheté des terrasses ici. C'est là que je prends 2-3 trucs pour égayer un petit peu le retour des clients, quoi. Des plateaux pour faire de la charcuterie, parce qu'on ne va pas pouvoir faire des pizzas le week-end, parce que ça va être compliqué. Les gens, ils arrivent trop tard. Et on se replie sur de la charcuterie, des tapas, c'est comme ça, quoi.
Angélique a pris des verres, des produits secs qui tiendront jusqu'au 19. Elle vient pour 3 établissements à Toulouse et à Castres.
Il y a beaucoup de monde, on court tous après. On est aussi un peu stressé parce qu'on a peur de ne pas penser à tout. On est très content de reprendre en tout cas, quoi. Ça fait du bien.
Marc Bébic, le directeur de métro Toulouse-Sesquières, constate que ses clients restaurateurs reviennent en masse depuis une dizaine de jours.
On sent monter une effervescence, hein, notamment le matériel et puis la terrasse. Les parasols, les chaises, les tables. Hein. C'est l'occasion pour nos clients soit de changer leur terrasse ou soit tout simplement d'en créer une. Et on sent aussi au niveau des commandes qui sont en train d'être prises au niveau des produits extra frais et frais, que c'est en train de monter en puissance, et je pense pour le début de semaine prochaine.
Mais reste une incertitude pour les terrasses, la météo qui s'annonce très instable ici la semaine prochaine. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et puis un autre plaisir qu'on pourra bientôt retrouver, Pierre, c'est celle de la ferveur d'un match de football dans les gradins du stade. Dernière journée de Ligue 2 hier. Est-ce que vous entendez, ce sont les applaudissements des joueurs de Caen qui ont salué avec une haie d'honneur la performance de leurs collègues de Clermont-Ferrand qui enchaînent là les glissades sur la pelouse. Les deux équipes s'affrontaient hier soir et malgré leur défaite, les Auvergnats ont validé leur remontée en Ligue 1, une première dans l'histoire du club.
Clermont-Ferrand qui rejoint donc l'élite du foot français, 37e journée de Ligue 1 ce dimanche.
Le PSG affronte Reims ce soir, les Parisiens aussi en duel avec Lille pour le titre de champion de France. Mais dans cette course, le club n'est plus vraiment un maître de son destin, Julien Froment.
Les joueurs du Paris Saint-Germain auront les jambes au Parc des Princes et l'esprit tourné du côté de Lille, car le club de la capitale doit espérer un miracle pour remporter un 10e titre de champion de France. À 2 journées de la fin, pour inverser la tendance, la donne est assez simple. Gagner ce soir contre Reims, déjà assuré du maintien, et espérer un faux pas des Lillois qui comptent 3 points d'avance au classement. L'entraîneur Mauricio Pochettino sent son groupe très concerné.
Après Montpellier et la qualification pour la finale de la Coupe de France, j'ai vu des joueurs heureux, avec le sourire bien sûr. Nous savons que ce soir, c'est un match très important. 3 points pour rester dans la course au titre. Mes gars sont conscients de ça.
Paris s'appuiera une fois de plus sur son attaquant français Kylian Mbappé. 39 réalisations toutes compétitions confondues cette saison et qui incarne quasiment à lui seul tous les espoirs du club et des supporters dans une fin de saison où le Paris Saint-Germain a bien plus à perdre qu'à gagner.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et dans les rangs du PSG, il y a aussi Kylian Mbappé, très convoité par le Real Madrid pour la saison prochaine. Sauf si Pierre Zinedine Zidane quitte le club.
Mais oui, de quoi confirmer les soupçons. C'est ce qu'annonce en tout cas la presse espagnole. Selon plusieurs médias, en effet, l'entraîneur aurait déjà annoncé son départ à ses joueurs.
Il arrive à un moment où les choses doivent changer. C'est ce qu'a déclaré Zidane hier en conférence de presse. Et comme vous le disiez, Pierre, de quoi confirmer les soupçons sur son départ.
Et puis dans l'actualité également, le Grand Prix de France que nous explique Axel May, Grand Prix de France moto bien sûr.
Comme l'an dernier, les pilotes tournent seuls sur le circuit Bugatti, sans public pour les acclamer. Un crève-cœur pour le jeune Fabio Quartararo, déjà 2 victoires cette saison.
Et c'est triste, surtout quand on fait un bon résultat, voilà, on aime le partager avec ses fans, avec le public. Là, malheureusement, dans le tour d'honneur, il n'y a personne.
Malgré une intervention chirurgicale au poignet après le dernier Grand Prix en Espagne, Fabio Quartararo espère bien monter sur le podium au Mans, tout comme son compatriote Johan Zarco, 2 fois 2e en ce début de saison.
Je vais réviser bien la Marseillaise. Si on peut refaire en chœur avec Fabio, je pense qu'il y aurait moyen de s'éclater.
En tout cas, à défaut de public dans les tribunes, le Grand Prix diffusé en clair pourrait battre un record d'audience. Sébastien Poirier, président de la Fédération française de moto.
On a la chance d'avoir deux pilotes français qui trustent et qui animent la catégorie reine. Et à travers eux, c'est évidemment la moto, le sport moto, mais c'est aussi la France qui gagne, qui rayonne.
Aucun pilote tricolore ne s'est toutefois imposé dans la catégorie reine sur un Grand Prix de France depuis la fin des années 50.
Axel May du service des sports d'Europe 1 est donc spectacle garanti cet après-midi sur le circuit du Mans. Regardera ça, Pierre.
Ah bah oui, surtout qu'il y a des Français effectivement qui reviennent sur le devant de la scène dans ce Grand Prix moto. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Merci ma chère Romanoké. Retour de l'info à 6h30 avec Sébastien Guyot.